France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
La sauce soja, c'est vraiment, je dirais, un condiment de tous les jours, comme nous, on a le sel et le poivre.
La sauce soja, c'est comme une épice très importante de la cuisine japonaise. Et si on ne l'avait pas, il nous manquerait une touche finale.
Et une petite idée de l'origine.
J'aurais plus tendance à penser que ça vient du Japon.
Et non, mesdames, pas du Japon, mais de Chine. Et elle remonte à 2500 ans.
Savoir doser la sauce pour ne pas altérer leur saveur. Le fumet est délicieux.
C'est du blé avec du soja et un champignon qui est le koji.
Ils bourgeonnent, ça pousse et fleurissent comme une plante.
Et on laisse fermenter le tout jusqu'à obtenir cette délicieuse sauce.
On mettrait pas un petit peu de sucre là-dedans, là ?
Tu préfères comment ?
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Il y a 40 ans, on la connaissait à peine. Aujourd'hui, elle est omniprésente dans nos assiettes. Comment la sauce soja est devenue un condiment incontournable de nos placards ? Pour mariner viande et poisson, pour déglacer des légumes, pour assaisonner des sushis. Comment la choisir ? Comment la déguster ? Comment la cuisiner ? On en parle avec nos invités du jour. Une invitée d'origine japonaise, un invité d'origine chinoise. Shiro Masui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes née à Tokyo, c'est bien ça ?
Oui.
Vous êtes journaliste gastronomique depuis plus de 20 ans, très respectée évidemment en matière de cuisine nippone. Merci. Vous avez signé de très nombreux livres de gastronomie sur la cuisine de l'Empire du Soleil Levant. Et vous êtes arrivée carrément avec une valise de sauce soja. Il y en a, allez, une bonne vingtaine.
Mm-hmm.
Impressionnant.
Oui. Il y a tous les types pour tous les goûts.
Impressionnant. Mais quand on parle de sauce soja, il faut évidemment convoquer la Chine. Anda Cheng, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la cuisine chinoise. Alors, il y a votre compte Instagram. Vous nous en rappelez le pseudo ?
Oui, qui s'appelle Chifan Paris.
Absolument. Vous faites toujours des food tours ou pas dans Exactement. Les communautés chinoises de
Exactement.
Paris ?
On fait toujours des tours dans différents quartiers de Paris, oui, sur la cuisine chinoise et au-delà de la cuisine chinoise d'ailleurs.
Et il y a ce livre que toute l'équipe dont on va déguster adore. Il est bien au chaud dans ma bibliothèque de cuisine. Je vous laisse nommer le titre.
Il s'appelle « Le guide de la cuisine chinoise ».
Et c'est aux éditions Duchesne. Franchement, c'est le livre de référence pour comprendre ce continent culinaire qu'est la gastronomie chinoise. Et vous nous avez d'ailleurs mitonné deux recettes issues de ce livre. Deux recettes à base de sauce soja. On va voir ça avec vous, cher Anda. Et pour nous accompagner pendant une heure, Elvira Masson et Céline Maguet. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Elvira.
Je vais vous parler du livre délicieux d'un écrivain japonais amoureux du soja sous toutes ses formes.
Très bien, Céline.
Moi, je vous ferai goûter une boisson fermentée qui a un point commun avec la sauce soja et même un champignon en commun, mais surtout, qui a le chic de se marier avec tout.
Ah, très intéressant. Et franchement, c'est une belle surprise que nous réserve Céline. Retrouvez nos contenus, recettes, adresses, podcasts sur franceinter.fr à la page. On va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Les amis, juste avant de verser dans la sauce soja, je vous sers sur un plateau une très jolie carte postale parisienne. Oui, parisienne. Est-ce que vous avez envie d'un expresso dans les règles de l'art, de viennoiserie joufflue, d'un croque-monsieur très bien garni, d'un jambon beurre exemplaire, d'une belle quiche lorraine? Eh bien, tout cela est rassemblé dans un café de quartier que j'ai découvert, qui a ouvert il y a quelques semaines seulement, qui fait 25 mètres carrés bien tassés et qui est à deux pas de la Tour Eiffel et du Champ de Mars.
Je m'appelle Benjamin Constant, j'ai 24 ans, je commence à ouvrir ma première affaire.
Comment on pourrait définir cet endroit qui n'est pas très grand, qui est assez intimiste, au cœur du 7e arrondissement de Paris?
On me dit souvent que c'est un coffee shop et moi ça me fait un peu mal au cœur. Parce que j'ai cette image des coffee shops, c'est quelque chose d'australien, américain, et j'avais envie de donner un aspect français à tout ça. Du coup, quand on me demande personnellement, j'appelle ça un café de quartier. On peut pas faire des joues de bœuf, on peut pas faire des plats cuisiniers, mais on peut faire des quiches, on peut faire des sandwichs jambon comté cornichons, on torréfie notre café et on peut passer un bon moment.
Vous torréfiez votre propre café?
Du coup, le café était un peu, je trouve, négligé dans les bistrots et je voulais que cette note de fin de repas soit aussi bonne que la première. On voulait rester dans l'optique de tout faire de A à Z.
Allez, est-ce que vous pouvez me faire couler un petit expresso?
Allez, avec plaisir.
Ah oui, vous avez la vraie machine Marzocco italienne?
La grosse Marzocco, ouais, c'est un beau bijou. Je pense que c'est important d'avoir des bons... des bons ingrédients et la machine en fait partie. Ça, c'est du El Salvador. C'est notre petit café qu'on a sourcé chez Delco, fournisseur de café vert. C'est un café nature, bourbon. Du coup, un truc qui a un peu de caractère, mais qui est pas trop déroutant non plus. Ça reste dans l'amertume du café, le chocolat, avec quelques notes de fruits.
Il y a de la rondeur chocolatée, mais il y a également une belle trame fruitée, légèrement acide.
Exactement. Oui.
Très bel équilibre.
Comme en cuisine, il y a une recette pour le café. Le grammage d'entrée, le café qu'on rentre dans le porte-filtre. À ce moment-là, il faut choisir la mouture pour que l'eau puisse passer plus ou moins dans le café de manière à qu'il y ait un temps d'extraction. Tous ces paramètres sont à gérer et ça peut totalement changer la recette.
Donc si on peut résumer, on est ici dans un café à la parisienne, mais avec du bon café, ce qui n'est pas toujours facile dans les cafés parisiens.
Exactement. Parce que voilà, elle est là ma philosophie en fait. Tout ce qu'on fait, c'est super simple, mais on choisit les bons ingrédients et on fait tout maison. Les madeleines, je vais pas en faire 50 le matin, j'en fais 12 par 12. Et une fois que mon associé, mon collègue, il me dit il t'en reste plus que 3, et ben je renvoie une plaque.
Bon vent dans cette nouvelle aventure, Benjamin.
Bah merci bien, merci bien.
Ça s'appelle Constant Café. Alors c'est un coffee shop à la parisienne ou un café de quartier. Vous savez qui est Benjamin Constant ou pas ?
Il y a un rapport avec Christian Constant ?
Eh oui, c'est son fils.
Ah !
Absolument, c'est son fils. Et d'ailleurs, on voit Christian Constant qui est là pour donner un coup de main, mettre la main à la pâte et nous préparer, ce que Benjamin Constant nous a apporté. De belles madeleines, une tarte au chocolat, un cake au citron. Elvira, vous avez goûté quoi ?
Il me reste un mini coin de cake au citron, j'ai goûté ça, a priori.
Oui, une grosse tranche.
Il est délicieux, il est très 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 citronné, on tombe un petit peu sur du zeste. Moi j'aime bien le cake au citron quand il est un peu sucré mais pas trop, mais qu'il a vraiment un goût de citron, qu'il est assez acide.
Un goût de citron frais. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et là,
il
c'est
a vraiment un goût presque de jus de citron, il est très dense, très bon, voilà, j'adore.
Parfait, Chiro, vous avez goûté quoi ?
La madeleine,
alors,
je n'ai pas encore goûté.
Elle est bien bossue en tout cas. Hein.
Elle est lourde. Hein.
Oui.
Ah, elle est pesante, elle est dense. Très bon.
C'est bon.
Ah, très bon.
Ah. Anda.
Moi, j'ai eu la tarte au chocolat. Un cœur très onctueux, très chocolaté. Moi, j'aime bien aussi la superposition entre le fond, le biscuit un peu craquant,
mm-hmm.
et le fond très moelleux, donc ça marche bien.
Céline, vous vous êtes sustentée de quoi ?
J'ai goûté les trois, bien sûr. Et alors, c'est drôle parce que moi, j'adore normalement les madeleines bien beurrées. Celle-ci est un peu plus sèche, mais
oui.
Elle est limite proche du financier, avec un côté beurre-noisette.
C'est vrai.
Et il y a un côté régressif que je ne pensais pas trouver dans une madeleine un peu plus sèche que celle que j'aime normalement.
D'ailleurs, ils revendiquent le côté financier. Et en plus, il y a un vrai effort sur les prix. On est quand même dans les quartiers chics de Paris. La grosse madeleine coûte 1,50€.
Ouais.
La belle part de quiche Lorraine coûte 5€. Le croque-monsieur est à 9€ et je peux vous dire qu'il est aussi là encore bien garni. Voilà, c'est le Constant Café, 3 rue Augereau, ouvert tous les jours sauf le lundi à partir de 7h30. Hein, c'est en continu, donc là aussi on est vraiment dans le bel esprit d'un café parisien. C'est Laurent Thomas et Maria Pasquet qui réalisent cette émission avec Gaspard Guy Bourget à la technique, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. On va quand même passer à la sauce soja, même si là je vous ai un peu cassé les pâtes et les papilles avec du sucré, mais ça va aller, non ? Sauce soja, juste après, Oukou, le titre de Dengue Fever, un groupe californien avec, écoutez bien, une chanteuse qui nous vient du Cambodge. Cambodge étant au passage l'un des pays du bœuf loklak. Cette viande marinée à la sauce soja et au poivre de Kampot. Bon appétit et bon voyage sur France Inter.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ce qui est tout aussi incontournable quand on mange des sushis, c'est la sauce soja. Les Japonais l'appellent shoyu. Nous trempons en général le sushi dans la sauce soja côté riz. En fait, c'est le poisson qu'il faut tremper dans la sauce soja. De cette manière, vous évitez que le goût de la sauce prenne le pas sur celui du sushi.
C'était un extrait des Épicurieux, la chaîne de l'ami Jamy Gourmaud, disponible sur les réseaux sociaux, qui explique à quel point pour nous autres Français, la sauce soja est associée aux sushis qui ont débarqué en France dans les années 80. Et c'est vrai qu'on a, Shiro Masui, découvert à ce moment-là cette sauce brune dans laquelle on faisait trempette. Même si, faire trempette avec des sushis, je vous vois faire une petite grimace quand même.
En fait, oui, il faut toujours tremper le côté poisson. Parce que si on trempe le côté riz dans la sauce, le riz se désagrège. Et vous avez une soupe de riz à la sauce soja, ce qui est vraiment ni joli, ni bon. Et puis, par ailleurs, si vous allez dans un restaurant de sushi classe...
Un peu haut de gamme.
Le chef sushi va mettre sa sauce, qu'on appelle nikiri. Et c'est une sauce, en fait, à base de, évidemment, sauce soja avec un peu de myline ou saké, enfin, la composition dépend du chef, et qu'il va appliquer au pinceau sur chaque sushi. Donc, vous n'avez pas besoin de tremper votre sushi dans la flaque de sauce soja très noire.
Oui, parce que vous dites flaque, c'est vrai qu'en France, on a tendance à verser énormément de sauce soja dans une coupelle et à y aller allègrement, alors qu'en fait, il faut en mettre quelques gouttes.
Disons que quand j'étais enfant, je me faisais remonter les bretelles par ma mère qui me disait « n'inonde pas ton ramequin de sauce avec la sauce soja ». Donc, et quelques gouttes suffisent, parce que c'est très concentré en goût, c'est très salé. On n'a pas besoin d'une mer de sauce soja pour en manger, puis vous pouvez toujours en rajouter s'il n'y en a plus.
Vous le constatez, puisque vous vivez en France depuis très très longtemps.
Oui.
Shiro Masui, la sauce soja s'est démocratisée à vitesse grand V dans notre pays. On la trouve désormais dans tous les supermarchés de France, dans de très nombreux restaurants, et pas seulement japonais. Au rayon assaisonnement des cafétérias entre le vinaigre et le tabasco, par exemple. C'est devenu un peu un or noir, et les chiffres de consommation de la sauce soja au niveau mondial sont affolants. Durant ces 10 dernières années, la demande mondiale a augmenté de 50% et elle a plus que doublé en 20 ans. Et si on prend par exemple l'entreprise Kikkoman, c'est le leader mondial de la sauce soja, qui est une entreprise internationale japonaise. Mmh. Elle compte aujourd'hui quand même 13 unités de production partout dans le monde, dont 2 en Europe, Royaume-Uni et Pays-Bas. En 2019, 1 million de litres de sauce soja vendus par Kikkoman en France. Et en 2022, c'est-à-dire 3 ans après, 2 millions, soit le double. Ça augmente très très vite, ça vous étonne ?
C'est vrai que je la vois littéralement partout, de façon, je trouve, un peu abusive. Parce que, encore une fois, c'est très salé. Donc vous versez ça sur tout, vous n'avez que le goût du sel, quelque part. Donc je trouve ça un peu too much. En même temps, ça apporte toujours de l'umami. Et ça, évidemment, ça aide. C'est pas comme mettre un grain de sel.
Alors, l'umami, c'est effectivement cette fameuse saveur. En quoi la sauce japonaise est porteuse de cette saveur que l'on pourrait traduire en français par saveur délicieuse,
oui.
Profondeur
umami
de goût.
Umami en japonais veut dire le goût de ce qui est bon, c'est très simple. et c'est un goût qu'on retrouve dans la truffe, dans le parmesan, dans la tomate mûre.
Mais qu'on retrouve aussi beaucoup dans des produits fermentés. On les retrouve dans certains produits bruts mûrs, mais c'est aussi l'umami. Umami, le résultat très souvent d'une fermentation.
Voilà.
Vous avez cité le parmesan, mais ça peut être aussi la lactofermentation qui agit dans la fabrication de la sauce soja.
Bien sûr. Alors, la sauce soja, pourquoi il y a de l'umami ? Tout simplement parce que c'est un produit fermenté. De la même façon que, par exemple, la sauce poisson, le nguoc mam vietnamien, il y a de l'umami parce que c'est un produit fermenté. Et un autre exemple japonais, c'est le saké.
Anda Cheng, vous êtes français d'origine chinoise, à la question, l'empire du milieu a-t-il inventer la sauce soja, vous répondez quoi ?
Par affirmatif, par oui. En fait, il y a pas mal de produits qui ont été d'origine chinoise et qui se sont exportés plus tard vers les pays aux alentours, donc en Corée, au Japon et au Vietnam aussi. Donc la sauce soja en fait partie. Après, l'histoire de la sauce soja, elle est très longue. Mais si on revient un peu plus à sa forme actuelle, c'est-à-dire la sauce un peu noire, sous format liquide. Déjà, pendant la dynastie Song, donc c'est 9e, 10e siècle, il y avait déjà des écrits qui disaient que la sauce soja, elle était déjà consommée de manière très très courante auprès du peuple. Donc ça fait au moins 1000 ans que la sauce soja, sous sa forme actuelle, est consommée, on va dire, par les Chinois. Puis elle s'est exportée vers les autres pays et ça s'est retransformé, évidemment, donc, avec des goûts un peu locaux. Moi, j'appelle la sauce soja la sauce mère de la cuisine chinoise. Donc La Chine est un pays immense avec des diversités de palais, mais la sauce soja, elle reste. Quelle que soit la région, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, vous avez toujours de la sauce soja dans la cuisine à table.
Alors on commence à comprendre évidemment que la sauce soja est un produit, un condiment, une sauce très importante dans la cuisine chinoise. Mais c'est vrai qu'on l'associe, il y a eu les sushis qui ont introduit en quelque sorte la sauce soja dans notre pays. Il est vrai qu'on l'associe encore beaucoup au Japon. Il y a eu quoi en fait, Chihiro, entre la Chine et le Japon? Il y a eu comme une espèce de transfert des produits, des savoir-faire.
Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la Chine l'empire du milieu. Tout en Asie vient de Chine. Le seul produit qui est vraiment japonais, c'est le saké. C'est le seul produit alimentaire. Par contre, moi, ce que j'avais compris, et je ne suis pas historienne, hein, mais ce que j'avais compris, c'est que la sauce soja japonaise est venue effectivement de Chine, mm-hmm. en même temps que tout le reste, le miso, même le sushi, etc. À savoir, grosso modo, au 8e, 9e siècle, avec le bouddhisme. C'est-à-dire, ce sont les moines bouddhistes qui ont amené tout ça dans leur bagage.
Et qui ont voyagé avec des produits, des savoir-faire.
Ouais. Et la sauce soja japonaise, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tamari, qui était en fait le liquide qu'on retrouvait à la surface d'un tonneau de miso.
D'accord.
Donc le miso est en chinois, hein, à
c'est
l'origine.
Ça. Donc, alors, miso, ça, on ne dit pas miso en Chine, pour le coup?
Non, il y a des équivalents de miso, parce que du coup, c'est compliqué de trouver un équivalent parfaitement de miso.
Oui.
Miso, au sens large, c'est une pâte de soja fermentée, mais ça peut être un autre truc que fermenté. Et effectivement, la sauce soja, donc avant d'être la sauce soja, en chinois, on appelle ça tiangyo. Tiang veut dire pâte, yo veut dire huile. Donc, c'est vraiment une pâte avec une fine couche d'huile par-dessus, et on a gardé ce nom-là jusqu'à présent, alors qu'elle est sous format liquide, aujourd'hui.
En fait, on s'est rendu compte que ce liquide qui remontait à la surface de la fermentation de cette pâte de soja était intéressant gustativement, intéressant culinairement, et c'est ainsi que c'est devenu peu à peu un produit propre que l'on pourrait appeler aujourd'hui la sauce soja, sans trop caricaturer les choses.
C'est tout à fait ça. Alors par contre, au Japon, le miso chinois, on a ajouté du riz dedans, on a notre miso maintenant japonais, et la sauce soja... Alors la sauce soja est quand même restée très similaire à la chinoise en termes de fabrication et d'ingrédients. Bon, gustativement, c'est quand même très différent.
On va le voir.
Parce que c'est adapté à une cuisine très peu grasse.
Et évidemment, on va voir qu'à toutes les étapes d'une préparation culinaire, la sauce soja peut évidemment intervenir. Mm-hmm. Quand vous évoquez le tamari, juste une petite précision.
Oui.
Le tamari qu'on achète, hein, c'est bouteilles de liquide noir dans les magasins bio. Il s'agit d'une variante de sauce soja japonaise, mais qui ne comporte que du soja. Est-ce à dire qu'il y a d'autres ingrédients dans une sauce soja?
À part le tamari, les sauces soja japonaises, en tout cas, comportent toujours du blé. Alors, la quantité varie selon le type, mais il y a toujours du blé et du sel. Alors, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est quand il y a juste marqué soja tout court, la provenance, on ne sait pas d'où ça vient, parce que ça peut venir de n'importe où. Donc, sur les sauces soja japonaises, souvent, vous verrez 100% produit au Japon, soja japonais, sans OGM, fèves entières, etc. Mais sachant que sur les étiquettes traduites en français, ce n'est pas clair.
D'où viennent, Shihiro Masui, les très nombreuses bouteilles que vous nous avez rapportées?
À Paris, on en trouve dans toutes les épiceries japonaises et aussi coréennes et chinoises. Là, je me suis... j'ai raflé les étagères de Nishikidori.
Oui, on est dans le quartier Sainte-Anne à Paris, c'est Olivier Dehaene.
Et du coup, en gros, j'ai 20 bouteilles, dont 10 de Nishikidori et 10 de cette nouvelle épicerie japonaise à Paris, rue du Louvre, Hirashai.
Oui.
C'est un peu plus grand public.
Voilà. Sachant que ces deux épiceries ont leurs produits accessibles en ligne.
Oui.
Et il y a des sauces soja de combien de types différents?
D'abord, il y a la claire et la foncée. Alors, je dis claire et foncée.
Oui.
Parce que je prends la nomenclature, on va dire, française ou anglaise, occidentale. Mm-hmm. Nous, on ne dit pas claire et foncée. On dit usukuchi.
Ça, c'est pour claire.
Ça, c'est pour claire. Et ça veut dire bouche fine. Et koikuchi, ça c'est pour la foncée. Et ça veut dire bouche concentrée.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on...
C'est une question de quoi? De densité, quand même?
Non, c'est une question surtout de longueur de fermentation et évidemment de goût. C'est-à-dire que la foncée représente quand même 80% des sauces soja utilisées au Japon, donc c'est énorme. C'est, quand on dit sauce soja, shoyu en japonais, c'est de ça qu'on parle.
Mm-hmm.
Et elle a effectivement beaucoup de salinité, un tout petit peu d'acidité selon, et de l'umami. La sauce soja claire est très utilisée dans la cuisine, notamment de Kyoto, c'est-à-dire c'est une cuisine très délicate, très belle, visuellement très jolie, très épure, parce qu'elle a l'avantage de moins colorer les aliments.
Quand on va dans une épicerie japonaise de Shihiro Masui, vous recommandez quel choix de sauce soja, une claire ou une foncée?
Ça dépend de ce que vous en faites. Mm-hmm. Si par exemple vous voulez faire une soupe de nouilles udon, là il faut prendre la claire pour ne pas teinter le bouillon. Mm-hmm. La claire, en fait, au niveau du goût, est plus salée, moins umami, plus de sel. Mm-hmm. Alors que la sauce foncée Koikuchi, elle a plus d'umami et elle a moins de sel. Mais si par exemple vous voulez faire un sashimi, un sushi, si c'est une sauce de trempage, vraiment c'est la Koikuchi qui, c'est la foncée qu'il faut.
Mais alors par exemple, lorsque l'on a, comme c'est le cas sur notre plateau, Shiro, de beaux sashimi de poisson, j'espère que vous validerez ce poisson que nous sommes allés chercher dans une poissonnerie du 11e arrondissement qui s'appelle Julien et Marielle et qui font un poisson de Méditerranée qu'aiment particulièrement les Japonais. Sachez que ce poisson-là est Ikejime, ça veut dire qu'il a subi une mise à mort à la japonaise qui empêche au poisson de souffrir et qui surtout rend son goût, on va dire, un peu moins poissonneux, c'est bien ça?
Ça lui permet surtout de développer son umami, à savoir la production d'acides aminés.
C'est ça. Voilà. Et ces sashimi de céréoles, idéalement, on pourrait les déguster avec quelle sauce soja, si vous deviez en recommander une, d'un bon rapport qualité-prix?
Alors, si c'est pour un sashimi, là, la petite bouteille de 100 ml, je crois, coûte 14,10 €. Donc, c'est pas bon marché. C'est celle que j'utilise chez moi pour, justement, comme sauce de trempage.
Comment vous l'appelez, celle-ci?
C'est un saishikomi. Mm-hmm. Ça veut dire, c'est une koikuchi, à savoir la sauce soja foncée, mais qui a été refermentée une deuxième fois. Et ça permet à cette sauce d'avoir une concentration d'umami, que je trouve très intéressant, si c'est pour assaisonner directement, par exemple, un produit cru, ou j'en mets une goutte dans la vinaigrette de la salade, par exemple, chez moi.
D'accord. Voilà. On peut essayer comme ça, au naturel, sur ces lamelles de poisson cru. On fait passer la sauce soja, petit tour de table. On y va, on fait trempette, on a compris qu'il fallait y aller tout à fait raisonnablement. Céline Maguet.
Moi, j'ai fauté, je l'ai bu directement pour la goûter.
Ah oui.
Je voulais la goûter telle qu'elle, en effet. Mais en même temps, on sent vraiment cette concentration umami dont vous parliez. Je me dis qu'avec le poisson et la fraîcheur du poisson, ça va très bien l'accompagner.
Ça décuple l'iode, en quelque sorte. C'est marrant comme cette salinité assez présente n'emporte pas, mais accompagne l'iode.
Oui.
C'est du poisson exacerbé, quoi, en fait.
C'est tout à fait étonnant. Anda Cheng, qu'est-ce que vous pensez de cette sauce soja japonaise, double fermentation?
Super bon. Pareil, je trouve que le fait que ce soit pas trop salé pour un trempage direct ou parfois, enfin, il y a des sauces soja qui sont vraiment trop salées mais qui sont intéressantes pour la cuisson. Ici, typiquement, je trouve qu'elle est, tu vois, c'est très umami et je sens effectivement une sucrosité, encore une fois naturelle. Hein, donc c'est la fermentation qui fait ça et
Il y a une certaine rondeur, mais il y a aussi une trame épicée. On peut trouver dans les sauces soja des notes réglissées, des notes boisées. Il y a toute une palette aromatique qui est extrêmement vaste, selon évidemment les savoir-faire et les marques de sauces soja.
Bien sûr. Alors là, je vous invite à en goûter une autre. Celle-ci est vraiment, vraiment étonnante.
Claire ou foncée?
Alors c'est une foncée qui a la particularité d'avoir 20 ans d'âge.
20 ans d'âge, ça veut dire que la sauce soja peut vieillir.
Je pense dans de très bonnes conditions, avec une très bonne base au départ. Hein.
Elle est presque un peu sirupeuse.
Elle est épaisse.
Oui, elle est épaisse. Hein.
On voit qu'elle est très très concentrée. Et vraiment, une goutte suffit.
Et là, toujours avec un poisson cru?
Oui, ou par exemple le tofu froid. Alors, tofu de soie japonais, cru, ça marche très bien. Et par exemple, moi j'aime bien avec un steak. Mm-hmm. Un blanc poulet.
Un peu à la manière finalement de l'usage du vinaigre balsamique qui lui aussi peut subir un affinage de plusieurs années, voire de plusieurs décennies.
Mais c'est vrai que ça fait penser à un condiment, à la façon d'un vinaigre balsamique.
Ouais. Le fin mot, c'est de dire qu'il peut y avoir effectivement des sauces soja de très grande qualité qui sont en fait des élixirs ou des condiments qu'on utilise avec parcimonie. Mm-hmm. Et ensuite, on peut se tourner évidemment vers une sauce soja beaucoup plus courante pour faire la cuisine, pour mariner des poissons, des viandes.
Voilà. Moi, j'ai typiquement dans mon frigo 4 sauces soja. J'ai celle qu'on vient de goûter qui est absolument formidable. L'autre que j'utilise un peu plus généreusement.
Celle de double fermentation que vous évoquiez.
Oui, la double fermentation. J'ai celle-ci qui est une sauce. Alors ça coûte 5,50 € pour les 500 ml. Hein, mm-hmm.
Donc c'est une bonne affaire celle-ci.
C'est une bonne affaire, oui. Et celle-ci, je l'utilise pour la cuisine.
Et comment elle s'appelle celle-ci?
S'appelle Fukuju, Marudaizu Shoyu. Marudaizu Shoyu veut dire tout simplement sauce soja de fève entière.
Eh bien justement, on a pris en photo toute votre bouteille de sauce soja que vous recommandez. Vous pouvez la retrouver évidemment dans une sélection de sauce soja sur franceinter.fr à la page On va déguster. Mais alors, on va passer à la face chinoise de cette culture sauce soja avec vous, Anda Cheng, parce que quand on entre dans un supermarché asiatique, alors là, pour le coup, le choix est nettement plus restreint. On peut même dire qu'on a, globalement, on est face à deux options et pas plus pour l'instant.
Ouais, quand on rentre dans des supermarchés chinois ou asiatiques, forcément, il y a un peu moins de choix que dans une épicerie fine japonaise. Mm-hmm. Globalement, il y a une distinction de base qui se fait entre la sauce soja claire et la sauce soja foncée.
Ah là encore !
Grosso modo, la sauce soja claire, c'est la sauce soja de base en Chine. Donc la sauce soja par défaut.
Voilà. Et sur les étiquettes, ça peut être light, c'est ça ?
Ça peut être, ouais, effectivement. Donc ça dépend comment la bouteille est traduite, mais ça peut être light soy sauce. Uh-huh. Donc, si c'est marqué en anglais ou si il n'y a pas d'autre indication, vous partez du principe que c'est de la sauce soja claire.
D'accord.
Et la sauce soja foncée, effectivement, elle est un peu moins utilisée. Donc c'est une sauce soja qui est un peu plus épaisse donc, sur la texture. Donc si vous tendez un peu la bouteille, vous allez voir que ça va un peu accrocher à la...
Elle est plus sirupeuse ?
Elle est un peu plus sirupeuse, elle est beaucoup moins salée, elle est plus sucrée parce qu'il y a du sucre qui a été rajouté là-dedans. Donc la différence entre une sauce soja claire et foncée dans la fabrication, c'est que la sauce soja, souvent ça part de la même base et puis en fait on va refermenter en rajoutant du sucre.
D'accord.
Et du coup c'est une sauce soja qui a un peu moins de goût et elle est essentiellement utilisée dans la cuisine chinoise pour la coloration des plats.
On veut carrément que la sauce soja, là, pour le coup, oui. Assombrisse certains plats.
C'est ça. Typiquement, pour faire une espèce de porc caramel, donc pour la partie caramélisation. Donc, notamment, on va utiliser la sauce soja foncée. Donc, il y a une combinaison entre la sauce soja claire, mm-hmm. qui va apporter le goût, et la sauce soja foncée qui va apporter la couleur.
Et quand on regarde la liste des ingrédients, est-ce qu'on est, comme au Japon, en présence de soja,
oui.
De graines de soja, mais également de blé?
Oui,
et de sel.
C'est quasiment pareil. Donc, je pense que la différence avec le Japon, encore une fois, sur les sauces soja de base, peut-être le koji. Donc, mm-hmm. Cette moisissure va changer légèrement, mais sinon, on reste sur du blé, soja, sel et de l'eau.
Le koji, c'est donc ces bactéries,
oui.
c'est qui sont responsables de la fermentation, c'est de la ça. Transformation de ces c'est graines ça. De soja en
voilà.
jus.
C'est ça qui va. Qui
oui,
va
c'est un ce peu, qui fait fermenter le soja.
Qui mm-hmm. va faire de la moisissure, qui va un peu désagréger oui. un peu le soja. Donc, koji, c'est le terme japonais. En chinois, on dit tchu. Mais
c'est la même chose.
C'est la même chose, oui.
D'accord.
Et vous nous avez apporté, parce que vous faites de très nombreux allers-retours en Chine, des sauces qu'on ne trouve pas encore sur le marché français, mais qui sont pourtant des sauces artisanales assez exceptionnelles. Mais là, c'est dans le frigo de Anda Cheng. C'est pas encore dans les magasins à Paris ou dans nos régions.
Non. Non, pour le coup, la plupart des sauces qu'on trouve en France d'origine chinoise, ce sont des sauces soja alors industrielles. C'est pas forcément un mauvais terme, mais en tout cas qui sont produites à grande échelle. Et les sauces soja artisanales, c'est-à-dire celles qui sont fermentées dans des jarres en terre cuite, existent bien sûr en Chine, mais on les trouve pas ici en France. Et ce sont des sauces soja qui sont fermentées naturellement plus longtemps, en suivant vraiment les méthodes un peu millénaires, quoi. Donc là, j'en ai rapporté.
Est-ce qu'on pourra en goûter une ?
Ouais, carrément.
Dans un
ouais.
petit gobelet qui va circuler sous nos micros.
Moi, je pense qu'on peut partir sur celle-là. Elle est pas mal.
Et vous aussi, Anda, vous les conservez au frigo, comme le disait Chihiro. Ça s'altère si elles sont pas au frais.
Moi, je suis moins puriste sur ce coup-là. Donc, en vrai, la sauce soja, dans les familles... en tout cas, personnellement, je les conserve... Enfin, je les mets sur l'étagère, quoi. Je les mets pas vraiment au frais.
Ça ne pourrit pas, hein.
Ouais, ouais.
Ça ne tourne pas. C'est juste que nous, on pense que le parfum se perd très, très vite.
Alors, petite dégustation, Céline Maguet.
Là, il y a un côté, il y a plus d'amertume. C'est très, très différent que ce qu'on a goûté tout à l'heure. Mmh. Et il y a plus d'amertume, il y a un côté très, très forêt, enfin très tertiaire, je trouve très...
Boisé, j'allais dire.
Oui, ouais. C'est ça.
Très champignon, humus.
Complètement. Mmh.
Pour moi, ça se rapproche beaucoup du miso.
C'est vrai.
Plus que nos sauces soja à nous.
Ce côté fermenté aussi. Là, je trouve que ça explose encore plus. Mmh.
Elle est produite dans quelle région, cette sauce ?
Alors, celle-là, elle vient de Hubei. Donc, Hubei, c'est une province au centre de la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des fabriques de ce soja un peu partout en Chine. C'est un produit très régional, en fait. Donc, selon les régions, vous allez trouver des sauces soja très différentes qui s'adaptent à la cuisine régionale.
Bienvenue dans le monde complexe et passionnant de la sauce soja, versant japonais et versant chinois.
On va déguster. Sur France Inter.
Je suis tombée sur ce livre, Les carnets de table d'un amateur de cuisine japonaise. Je suis d'ailleurs plutôt tombée dans ce livre, tant je l'ai aimé. Son auteur, Arashiyama Kozaburo, a deux amours, la littérature et la cuisine. C'est un livre qui mêle les deux de façon aussi facétieuse qu'érudite. Il est préfacé par le non moins facétieux Guillaume Long. François Régis, ça vous dit quelque chose ?
Évidemment, ce grand auteur de bande dessinée ouais, installé à Lyon.
Absolument.
Qui et fait qu'on a reçu de très jolis albums, évidemment.
Reprises, voilà.
Boire et manger, c'est le titre de sa collection.
Ouais. C'est un livre qui est composé de courts chapitres où l'auteur décline ses 100 soupes préférées au miso, par exemple. Vraiment, il y en a 100 et vraiment, elles sont numérotées dans le livre. La technique pour boire du lait à bicyclette et le secret métaphysique du trou dans la racine de lotus. Alors, c'est émaillé de pépites poétiques et cocasses et d'idées touchantes. Vous savez, par exemple, on a tous un jour, je ne sais pas moi, chippé des bonbons à la boulangerie, des cerises sur un marché. Eh bien, chez Arashiyama Kozaburo, ça se traduit ainsi. Le produit d'un vol est incomparablement savoureux. Une pastèque dérobée dans un champ, un œuf dur subtilisé dans un restaurant de ramen, un morceau de sashimi piqué lors d'un banquet dans l'assiette du voisin, quelques feuilles d'algues kombu chapardées dans un kiosque de gare. L'expression « nusumigi », voler et manger, est employée dans le langage ordinaire pour exprimer l'acte de manger en se cachant du regard d'autrui. Et si l'origine de cette expression désigne probablement l'acte de manger un aliment chapardé, il ne fait aucun doute qu'un tel acte procure un plaisir singulier. La saveur des aliments servis lors d'un banquet de pirates tient au fait qu'ils sont des produits de rapine, ils ont le goût du pillage. J'ai particulièrement aimé un autre chapitre consacré aux haïkus comestibles, qui lui donne l'occasion de se moquer des poètes qu'il trouve un peu embarrassés par la nourriture et par la chose culinaire. À croire, je le cite, que l'excellence d'un mets ruinerait son inspiration et que ses émotions sont proportionnelles à la mauvaise qualité des plats qu'il consomme. Pourtant, moi, il y a pas mal de haïkus qu'il cite et que j'aime bien. Par exemple, cuisine d'été, seule, avec ma soupe brûlante. Ou encore, les baguettes des vieux époux se croisent sur le tofu froid. Allez, un dernier haïku pour la route. Celui-ci trouve grâce à ses yeux. Hein. Soba de nuit, la neige engloutit ce hameau de la province de Michinoku. C'est beau, non ?
Oui.
Il est question de tofu, de shoyu. Le soja au sens large est très présent un peu partout dans le livre, qui comprend même un chapitre hommage à l'edamame, qui n'est rien d'autre que la fève de soja non maturée, des fèves vertes dans leur cosse qu'on consomme au Japon, en Corée, en Chine, à Hawaï et finalement partout dans le monde.
Et même beaucoup en France.
Absolument,
hein.
Ouais.
Les enfants adorent ça notamment.
Oui. Traditionnellement, elles sont servies dans les restaurants japonais en cosse, salées, en accompagnement d'une bière. Ce qu'il appelle les sept métamorphoses de l'edamame, ce sont la façon plus ou moins orthodoxe de les consommer, au sel, comme je viens de le rappeler, fermentées sous forme de natto, ou encore avec un peu de wasabi et de shoyu, qui accompagnent, selon lui, avec une rare élégance le saké, ou encore mijoté dans la sauce soja avec du mirin. Ou enfin, edamame mariné dans le miso à fin curative. Je le cite une dernière fois. « Je me suis préparé de l'edamame mariné dans le miso un lendemain midi de cuite. Eh bien, je peux vous assurer que la préparation de ce plat a des vertus curatives. Il soigne la gueule de bois car les fèves semblent avoir le pouvoir d'absorber les humeurs mélancoliques. »
Vous confirmez cet usage thérapeutique ou pas, Chiro ?
Je n'ai aucune idée. J'ai jamais essayé.
Une fois bouillie, la couleur des fèves abandonnées deux jours dans du miso vire du vert au brun. Le miso est un cousin, puisqu'il est également à base de graines de soja, l'ensemble s'harmonise à la perfection et même avec la gueule de bois, on reste capable d'apprécier cette harmonie-là. Cette harmonie-là, elle est au cœur du livre tout le temps et est au cœur de toute la collection Le Banquet aux éditions Piquet, dont ce livre fait partie, publié en 2022, une collection géniale qui réunit des œuvres japonaises inédites où la nourriture occupe une place centrale, collection dirigée par notre ami Ryoko Sekiguchi, oui, poétesse, autrice, qui écrit ceci dans son texte introductif. Tisser des histoires de nourriture, c'est parler de notre façon d'être au monde.
Vous me le passez ?
Je vous l'offre, c'est ça ?
Oui.
Ou je redis le titre ? Les deux, si vous
les
voulez.
Deux, mais
les carnets de table d'un amateur de cuisine japonaise de Arashiyama Kozaburo.
Non, je vais absolument le croquer celui-là.
Vous.
Je vous l'emprunte, mais
oui.
Je vous le rends après.
Non, c'est cadeau.
Non, franchement, les carnets de table d'un amateur de cuisine
c'est une merveille.
Japonaise. Merci beaucoup. La sauce soja au menu dont on va déguster dans un instant une terrible énigme. Vous allez devoir vous justifier et répondre à cette question, Chihiro Masui et Anda Cheng. La sauce soja sucrée est-elle une tradition au Japon ou en Chine, ou est-ce que c'est une spécificité, une aberration ou une fantaisie occidentale ?
Découvre-toi. Quelle bonne idée de parler l'amour. avec toi, pas plus bas. Là, c'est bien. Tes doigts, quelle bonne idée de parler d'amour, parler d'amour, parler d'amour, je veux parler d'amour,
Parler l'amour, Zao de Sagazan.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Chinoise ou japonaise, la sauce soja au menu dont on va déguster. Alors au-delà évidemment de ses usages traditionnels dans chacune de ces deux cuisines, hein, la cuisine japonaise et la cuisine chinoise, on utilise désormais depuis quelques années en France aussi cette sauce soja pour des petits tours de main assez insolites. Je ne résiste pas à l'idée de vous livrer ce tour de main assez génial. Il est signé André Zana Murat qui fait ce qu'elle appelle une vinaigrette magique pour assaisonner une salade d'endive, une salade verte. Et je vous jure, elle est magique. Elle est prodigieuse. Elle a pas besoin de sel parce que la quantité de sel est contenue en fait dans la proportion de sauce soja nécessaire. La vinaigrette magique d'André Zana Murat, vous mélangez dans un shaker ou encore mieux, vous savez, dans un pot de confiture, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge et 6 cuillères à soupe d'une bonne huile d'olive, mais qu'on peut remplacer aussi par de l'huile de noix ou de l'huile de colza. Vous mélangez fort, hein, vous shakez comme un bartender et vous obtenez une sauce qui est très nappante et qui, encore une fois, comporte la quantité de sel nécessaire et qui a une profondeur umami absolument prodigieuse. Elvira, est-ce que vous êtes sortie de votre période jaune d'œuf mariné
La sauce soja? Ce cycle est terminé, ce cycle est révolu.
Mais vous vous souvenez quand même du truc?
Oui, je me souviens. Oui, j'avais, je sais pas, une tendance qui a duré plusieurs années. Je prenais un jaune d'œuf, donc j'avais beaucoup de blanc d'œuf en stock, donc je faisais beaucoup de meringues à l'époque. Parce que je mettais des jaunes d'œufs à tremper dans la sauce soja. Et en fonction de la durée de trempage, on obtient des textures différentes. Donc, quelques heures, on a un jaune encore coulant. Et c'est assez agréable de casser un jaune coulant qui a un peu mariné sur un bol de riz. Et je le faisais parfois mariner jusqu'à 2 jours. Et après 2 jours de temps de marinade, il était tellement salé et confit, en fait, dans le sel de la sauce soja, que ça faisait une texture très dense et cireuse, un peu comme une poutargue, que je râpais pareil sur une salade, sur un œuf au plat. Et c'est pas tant le goût que ça avait que la texture et le côté un peu, le côté sel, condiment, quoi.
Ça correspond à une technique classique du Japon, ce jaune d'œuf mariné dans la sauce soja?
Alors,
Shiromasui.
Là, vous me posez une colle parce que j'ai aucune idée. Mais c'est vrai que c'est tremper des choses dans la sauce soja, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps avec plein de choses. Donc ça me paraît pas particulièrement exotique.
Des œufs, par exemple, hein. Enfin, des œufs. Il y a le jaune d'œuf, mais il y a aussi l'œuf entier.
Oui,
l'œuf entier. Faire confire, évidemment, dans la sauce soja.
Il faut quand même mettre du mirin, il faut quand même adoucir, parce que la sauce soja directe, c'est un peu trop salé pour ça. Mais oui. Moi, ce que je fais assez souvent, c'est ce que ma fille appelle ma sauce. Maman, tu fais ta sauce. Je veux un steak avec ta sauce.
La sauce Shiromasui qui va être désormais dévoilée à la France entière.
Franchement, c'est rien. Je fais cuire un steak, je fais dans la poêle, hein, normal. Après, j'ajoute une bonne quantité de beurre,
ouais.
Genre 150 grammes, 150 okay. grammes.
Je mets 150 grammes.
Ouais, parce que
c'est un beurre au steak en fait.
Après avoir retiré le steak, hein. Dans la même poêle, je mets 100 grammes si vous voulez de beurre.
Oui.
De l'ail émincé. Voilà, je fais revenir doucement pour pas brûler. Et à la fin, j'ajoute une petite rasade de sauce soja. Alors, de cuisine, hein, pas celle qui coûte une fortune, mais de cuisine. Un petit tour de spatule pour mélanger.
Mais le beurre, vous le faites mousser?
Non.
Fondre
et suffisamment chaud pour que l'ail cuise, mais c'est tout. Et attention, ça brûle très très vite, hein, la sauce soja.
Oui.
Donc voilà, et ça, verser sur le steak et surtout du riz à côté, du riz blanc nature. C'est très très bon. Et ma fille ne jure que par ça.
Vous avez écrit le livre d'un des plus grands chefs parisiens qui est dans le 16e arrondissement, qui s'appelle Pascal Barbeau. Mmh. Avez-vous goûté son beurre blanc à la sauce soja?
Il est absolument formidable.
Addictif.
Et pour une japonaise, j'avoue que son riz japonais, arrangé, on va dire, est parfait. Et ça, j'avoue que je m'étrangle un peu en l'admettant. Hein, parce que
oui, et Pascal Barbeau, chef étoilé, installé rue de Longchamp, restaurant Lastrance, et qui est effectivement très tourné vers la Corée, le Japon, et qui est l'un des rares chefs d'ailleurs à utiliser comme ça la sauce soja de manière remarquable, en la détournant un peu de ses usages traditionnels. Mais là, c'est validé visiblement par son amie japonaise, et c'est tant mieux. On en vient évidemment à cette question brûlante de la sauce soja sucrée. Il y a même un truc totalement édifiant, qui est une exception culturelle française. La sauce soja sucrée représente 50% des ventes de sauce soja en France.
Ah oui,
est-ce que ça correspond à une tradition en Chine ou au Japon? Ou est-ce que c'est une aberration française?
La sauce soja sucrée, comme en France, au Japon, n'existe pas. L'équivalent, vu de nous, c'est une sauce yakitori, c'est une sauce teriyaki. C'est-à-dire un mélange de sauce soja, mirin, sucre et peut-être un peu de saké flambé. Bon. La sauce soja sucrée, néanmoins, existe au Japon. C'est une spécificité de l'île de Kyushu, vers le sud. Hein. Alors, normalement, naturellement sucrée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ajoute souvent du glucose, du sucre, un peu de cochonnerie. Mais là, j'en ai une qui est une, on va dire, bonne sauce soja sérieuse du Kyushu sucrée. Et là, j'ai acheté une sauce yakitori qu'on trouve n'importe où dans le commerce. Et franchement, la comparaison des deux est édifiante.
Oui, alors là, on a affaire avec la sauce yakitori, sa bouteille en plastique, à une version très industrielle et junk food, on va dire. Hein.
Il y a tellement de choses dedans, c'est juste horrible. et c'est vraiment pas bon, donc je ne comprends pas les 50%.
Hein. Et oui, ça c'est vraiment un sacré mystère. En Dacheng, est-ce qu'en Chine, le sucre, quel qu'il soit, hein, la saveur sucrée, peut faire bon ménage avec la sauce soja qui, par essence, est salée et umami?
Alors, par définition, pareil, la sauce soja sucrée, telle qu'elle, n'existe pas vraiment, en tout cas dans l'usage commun. Donc, on peut la mélanger ensuite donc, dans des préparations culinaires, donc avec des produits sucrés. Du coup, presque le terme sauce soja sucrée ou salée n'a pas vraiment trop de sens, parce que là, par définition, elle est salée. Et encore une fois, comme disait Shiro, donc, dans des régions très spécifiques en Chine, on peut trouver des préparations de sauce soja sucrées, mais elles ne sont pas totalement pareilles. Donc, pour moi, la sauce kikkoman sucrée qu'on trouve un peu partout, elle est très, c'est-à-dire c'est de la sauce soja un peu industrielle avec du sucre.
Et en parlant justement de kikkoman, ce leader de la sauce soja, leader japonais quand même, eh bien on apprend en faisant des recherches que c'est précisément cette multinationale qui a créé pour les Français, spécialement pour les Français au milieu des années 2000, cette sauce soja sucrée. En revanche, on peut arriver à une sauce soja assez ronde et sucrée quand on la cuisine en Dacheng, à l'image d'une recette que vous allez nous proposer et qui est issue de votre formidable bouquin. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà beaucoup dit et je le redis, le guide de la cuisine chinoise aux éditions du Chêne. Il y a effectivement, à la page 348, cette sauce soja sucrée aromatisée. J'ai donc bien lu, Honda.
Oui, on la retrouve dans le Sichuan, par exemple. Et c'est très associé à certains plats, notamment à des plats de ravioli. Donc c'est une sauce qui est faite donc à base de sauce soja, dans laquelle en fait on va rajouter des épices. Donc en fait on fait cuire la sauce soja avec des épices comme la cannelle, comme badiane.
On part en fait d'une sauce soja claire ou foncée?
Claire, toujours.
Voilà, claire, c'est ce que vous avez dit. Ouais. Et racontez-nous le processus.
Donc on va mettre dans une petite casserole donc de la sauce soja claire, donc salée forcément, et on va rajouter des épices. Donc les épices peuvent varier, mais grosso modo, on va trouver deux types d'épices. Des épices pour apporter l'umami, le champignon. Dans la version que j'ai faite, par exemple, j'ai rajouté du shiitake et même des morilles. Donc ça, c'est pas forcément traditionnel, mais j'avais des champignons sous la main. Et des épices qui ont une connotation un peu sucrée, donc cannelle, clou de girofle, des épices voilà, qui vont apporter ce côté sucré, mais vous allez trouver du coup différentes strates de sucre. Évidemment, du sucre, j'ai rajouté du sucre brun et du sucre qu'on appelle wok sugar, c'est des blocs de sucre, donc du sucre blanc. Et tout ça font que vous avez de l'umami et
de la suavité.
Voilà, de la suavité. Et du coup, on va faire réduire la sauce légèrement, à peu près d'un tiers. Donc vous allez retrouver une sauce un peu sirupeuse, parfumée, sucrée, de l'umami.
On a le droit de la goûter ou pas?
Ouais, on a droit.
Allons-y.
Typiquement, cette sauce-là, je la sers souvent avec une huile pimentée.
Donc, et oui.
On va mélanger les deux et on va verser cette sauce-là soit sur des nouilles, soit sur des raviolis comme on a ici.
Sachant qu'il y a sur le site internet de notre émission la recette de sauce soja sucrée aromatisée aux épices, hein, on l'a compris, de Anda Cheng et la sauce au piment sichuanaise. Anda Cheng, sur votre recommandation, on est allé acheter des raviolis dans une maison qu'on peut recommander.
Oui, tout à fait, ouais. Donc le resto s'appelle Ravioli Nord-Est et oui. Ils ont plusieurs restos, trois je crois, à Paris.
Et la farce de ce ravioli, c'est bœuf-céleri.
C'est bœuf-céleri, ouais. Ils ont plusieurs farces et moi, c'est une farce que moi j'aime beaucoup. Je trouve que le céleri va bien avec le bœuf.
C'est bon, ça chauffe le palais. Hein.
C'est
alors,
parfait.
Commentaire.
Ouais. C'est méga bon. Et là, on est vraiment, vraiment dans la Chine. J'ai essayé avec la sauce, avec mes sauces soja japonaises, ça va pas du tout. C'est étonnant à quel point ça va pas. Là, c'est extrêmement bon parce que il y a une sorte de sucrosité pas sucrée. Et surtout, je trouve que la pâte du ravioli, elle est très très bien faite, elle est très bonne. Elle a à la fois la densité, la fermeté et aussi ce côté lisse qui coule dans la gorge, c'est extrêmement agréable.
Cuisiner la sauce soja à la maison avec des épices, un peu de sucre et ça donne un résultat prodigieux.
Il y a tout un jeu d'épices qui est génial.
Faut sentir la sauce soja, parce que tu vois que là on sent pas que le sucre, on sent les épices dans la sauce soja.
C'est très parfumé, il y a un goût très complexe, c'est dense, c'est vraiment extra.
Et qu'est-ce qu'on boit avec ça?
On va déguster sur France Inter.
Céline résout une énigme dans nos verres.
Donc si un jour au restaurant vous vous sentez un peu farceur, François Régis,
ouais.
Je vous conseille une petite blague. Demandez au sommelier ou à la sommelière quel vin servir avec un œuf, une salade amère, un artichaut, une asperge ou une vinaigrette.
Ah oui, là il va pas être content.
Non, il y a fort à parier qu'il ou elle ne trouve pas la blague très drôle. Car dans le vin, il existe des accords diaboliques carrément inaccordables. Sauf que, quand le vin faillit, il y a une autre boisson fermentée qui, elle, réussit à tous les coups. Vous l'avez dans votre verre, ce liquide jaune pâle. Je vous laisse goûter.
Même.
Et n'hésitez pas à le goûter avec l'artichaut ou l'endive que j'ai déposé devant vous. Ça fait un peu chiche, hein, je sais, je l'ai cuisiné dans leur plus simple appareil, c'est-à-dire sans rien. Mais l'idée, c'est vraiment de jouer les accords. Qu'est-ce qu'on boit?
On boit en tout cas un liquide qui s'accorde avec les tonalités douces-amères de l'endive. Et même l'astringence amère de l'artichaut, ça se passe plutôt pas mal, non?
Ça suit, en fait. Mmh. Ça vient l'accompagner et ça prend pas le pas. Ni l'un, ni l'autre. Et une petite idée, peut-être, de ce que c'est?
Saké.
Oh, merci, Yanda.
Saké, absolument. Mais c'est un bon saké.
C'est du saké, tout à fait. C'est même un saké. Donc, vous voyez, à faible degré d'alcool, on est à 14,5 degrés. Comme beaucoup de sakés, en fait, qui sont compris entre 14 et 22 degrés. Mmh. Ça permet aussi de tordre le cou à cette idée reçue. On croit souvent à tort que le saké est un alcool distillé, alors qu'il s'agit d'une boisson fermentée comme le vin. Là, vous voyez, ce saké, il a un côté un peu... On parlait des mori tout à l'heure. Moi, je le retrouve justement en bouche. Il y a un côté mori, riz grillé. Et c'est très riche, ça prend vraiment le palais ensuite et ça reste vraiment en bouche, c'est rond.
C'est enveloppant, c'est rond et en même temps, y a une jolie fraîcheur, moi, qui me plaît. Il y a une acidité un peu frisante là, qui est séduisante.
Et du umami aussi.
Et de l'umami,
bien
évidemment.
Sûr. Et ça, c'est, ce que vous avez dans votre verre, c'est la vague 2019 des Larmes du Levant. C'est un saké qui est fait en France, dans une région viticole qui plus est, à 5 km de Condrieu, dans le Rhône. Les Larmes du Levant, c'est l'histoire d'un Français, Grégoire Boeuf, qui est tombé amoureux du saké lors d'un voyage au Japon. Il en est revenu avec 26 bouteilles et une passion ardente. Ce qui l'a amené à rencontrer, autour d'une quenelle aux Halles de Lyon, un toji japonais. Les toji, ce sont l'équivalent des maîtres de chai, mais dans le saké. Donc s'ensuit pour lui des cours intensifs de japonais et une saison complète à faire du saké chez son maître toji au Japon. À son retour en terre rhodanienne, Grégoire Boeuf monte sa Sakakura en VO, la cave où l'on fabrique le saké en VF. Et il sort son premier saké en 2017. Alors ce n'est pas le seul producteur de saké en France, même s'il se compte sur les doigts d'une main. Car cette boisson est souvent cantonnée au Japon.
Jusque dans notre imaginaire culinaire d'ailleurs, hein, où il est associé à la cuisine nippone. Hein.
Très souvent, parce qu'en fait en France, nos repères ce sont le vin ou la bière. Le saké et sa fabrication gardent un certain mystère que je vais essayer de percer avec vous. Pour produire un saké, il faut quatre éléments. Du riz blanc, les Japonais ont longtemps utilisé le riz du quotidien, un riz de bouche. Puis peu à peu, ils sont allés chercher des riz plus aromatiques, qui se prêtaient bien à la fermentation, mais aussi qui donnaient du corps, de la structure, une identité au saké. Ces grains de riz sont ensuite polis, les couches extérieures sont enlevées pour rendre l'amidon du riz accessible, car c'est dans celui-ci que va se jouer la fermentation. Je vais résumer, mais plus un riz sera poli, plus le saké sera fruité, moins il sera poli, plus il sera ample et riche. Et ensuite, il faut un champignon. On en a parlé, c'est justement le point commun entre la sauce soja et le saké. Chihiro, si vous pouvez me dire son nom.
Koji ?
Le koji. C'est le koji, donc un champignon microscopique de la famille des ascomycètes, de la même famille que le pénicillium, qui sert à faire du roquefort, ou que les truffes et les morilles. Pour faire du saké, on va saupoudrer des spores de koji sur le riz cuit à la vapeur. En se développant, le champignon va transformer l'amidon du riz, qui est un sucre complexe non fermentissible, qui ne fermente pas donc, en sucre simple, qui lui fermente. En bref, sans koji, pas de fermentation. Et il faut aussi de l'eau, et pas n'importe laquelle. 100 métaux lourds, et si possible, chargés en minéraux, qui vont donner une identité au saké. Par exemple, Grégoire Boeuf des Larmes du Levant est très chanceux, des ropinets de sa Sakakura coulent l'eau de source du Pila.
Ah oui.
Et pour finir, il faut des levures. Comme pour le vin, elles peuvent être sélectionnées et ajoutées, on les dit exogènes, ou elles peuvent être naturelles et spontanées, provenir de l'air ambiant de la cave. On parle de levures indigènes, comme ici, dans la vague, la cuvée que l'on goûte.
Et comment, Céline, le saké se boit ?
Bah, froid, à température ambiante, chaud, on peut les boire comme on l'entend, mais surtout, on peut les boire avec tout. Le saké soutient les aromatiques des plats, il les accompagne sans créer un nouveau goût en bouche. En accord pêle-mêle, ça donne un saké naturel sur un risotto de coulmel, des sakés puissants avec des fromages prenants, un saké très sec sur une raclette, un saké fruité sur un dessert d'été. Tous ces accords, ça permet de rappeler que saké ne veut pas forcément dire cuisine japonaise, comme vin ne veut pas forcément dire cuisine française.
Très bien, et ce saké signé Grégoire Boeuf, vous nous rappelez le nom de la cuvée, on peut le trouver où ?
Alors, vous goûtez la vague des Larmes du Levant.
Oui.
Vous pouvez le trouver dans plein de caves à Paris, j'ai mis le lien sur le site de On va déguster, mais aussi sur le site des Larmes du Levant.
Merci beaucoup Céline.
Et quand même le prix, le saké ça a un prix, là c'est assez honnête pour un saké, on est à 28 euros les 72 centilitres.
Mais c'est une très belle sensation gustative, on a beaucoup de réactions d'auditeurs et d'auditrices sur des déclinaisons de la sauce soja au Japon, mais de la sauce soja où on ajoute quelque chose un peu aromatisé, la sauce ponzu par exemple, Shiro Masui.
Oui, le nom correct de la sauce ponzu c'est ponzu shoyu. Ponzu c'est jus d'agrumes et sauce soja, c'est aussi simple que ça. Après, donc on fait le mélange entre typiquement du jus de yuzu et de la sauce soja et on laisse reposer. Autrefois, dans des espèces de jars qu'on mettait sous terre pendant 6 mois, mais il faut laisser reposer plusieurs mois.
D'accord.
Pour que, encore une fois, ça gagne en umami. Comment dire, la sauce soja, c'est la base. Hein. Après, on fait plein de sauces avec.
Bien sûr. Dernière question, Anda Cheng. À quand des sauces soja chinoises de grande qualité dans un commerce ou distribuées en France ?
Bientôt, j'espère. Je pense que s'il y a...
Grâce à vous, non ?
J'espère bien, parce que j'ai un projet effectivement là-dessus. Ouais. Donc l'idée, c'est d'aller voir des producteurs et voir des fabricants en Chine, parce qu'il y a effectivement beaucoup de sauces soja, et pas que, de qualité en Chine, qu'on ne trouve pas ici, en France ou en Europe. Et qui sont vraiment hyper intéressantes.
C'est vrai qu'on considère souvent en France que la Chine est une terre d'excellence pour le thé, par exemple. Il y a beaucoup d'amateurs de thé en France, mais on ne le sait pas encore pour la sauce soja et quantité d'autres produits.
Tout à fait, ouais.
Un grand merci, Anda Cheng. Je rappelle le titre de votre livre, Le guide de la cuisine chinoise aux éditions Duchesne. D'ailleurs, je les ai comptés, il y a un peu plus de 90% des recettes et elles sont toutes super, qui comportent de la sauce soja.
Oui.
Voilà, preuve que la Chine est le pays du soja. Merci beaucoup, Shiro Masui.
Merci à vous.
À une prochaine pour un autre savoir-faire ou un autre produit japonais. Merci Elvira, merci Céline Maguet.
Merci et bon dimanche.
Merci, bon dimanche.
La semaine prochaine, détention et réinsertion. Il et elle nous racontent comment la cuisine les a sauvés après une période de détention. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.